Ici Psycho Balado avec Yves Dalpé, psychologue. Nous sommes le 29 juillet 2023. Alors, je suis en train de lire mon livre intitulé « L'infidélité n'est pas banale » et je vais continuer où j'étais rendu au dernier épisode. Alors, pour commencer, la fin du chapitre qui s'intitulait « L'infidélité est moins fréquente qu'on ne le pense ». Alors, quand je dis chapitre, c'est pas tout à fait ça, c'est un sous-chapitre, si on peut dire. Alors, donc, je m'exécute. Selon Pittman et Pittman, en 1995, ce genre de statistique élaborée sur l'infidélité a le fâcheux inconvénient d'exagérer la réalité extra-conjugale des couples, ce qui me rappelle l'affirmation lue dans Psychologie Québec en juillet 1995 à la page 30, ouvrez les guillemets, 40% de toutes les femmes mariées entretiennent une liaison, fermez les guillemets. Affirmation tout à fait farfelue selon moi. Premièrement, bon nombre de personnes infidèles comprises dans ce genre de statistiques énumérées plus haut ont connu qu'un seul écart de conduite. Critique Pittman et Pittman en 1995. D'ailleurs, la plupart des infidèles le seraient quelquefois seulement de toute façon, et ces auteurs ajoutent qu'un bon nombre des infidélités produites au cours de la dernière année de vie commune la séparation, ce qui a beaucoup de sens. Alors, j'ai peut-être mal lu, là, c'est que beaucoup de ces statistiques se réfèrent à ce qui se passe l'année précédente de séparation, ce qui a énormément plus de sens que d'avoir une infidélité en plein cœur d'une relation conjugale qui fonctionne bien. Alors, le paragraphe suivant. Les mariages durables seraient donc beaucoup moins engagés dans les relations extra-conjugales que les statistiques pourraient nous le laisser croire à première vue. C'est ce qui a mené Pittman et Pittman, toujours en 1995, à attaquer de front le mythe numéro 1 sur l'infidélité, selon eux, à savoir que tout le monde serait infidèle et que ce comportement serait normal. Rien de plus faux. Et ils prennent à témoin les nombreuses enquêtes d'opinion révélant toujours que les gens croient fermement en la fidélité conjugale. Cette conviction des Pittman a été confirmée dans une recherche internationale postérieure. En 1998, Widmer et al. Publiaient une recherche d'envergure couvrant 24 pays, une première en matière de recherche sur l'opinion des gens concernant l'infidélité. En tout, 33 600 sujets de recherche provenant des quatre coins du monde, l'Australie, l'Allemagne, l'Italie, la Hongrie, Israël, le Japon, Philippines, la Russie, la Suède, les États-Unis, le Canada, etc. Moitié hommes et moitié femmes. L'âge moyen se situait entre 38 et 49 ans. Il ressort de cette recherche une opinion clairement négative des gens sur l'infidélité dans le monde. À la question « Les relations extra-conjugales sont-elles incorrectes? » 87% des répondants de ces 24 pays ont affirmé qu'elles étaient toujours ou presque toujours incorrectes. Seulement 4% ont exprimé l'opinion que l'infidélité n'était jamais incorrecte. Cela concorde avec l'opinion de mes clients. L'infidélité n'est jamais perçu comme un événement banal, ni dans leur opinion, ni dans leur vécu. Cependant, je dois citer une recherche faite au Canada, rapportée par Barrett et al. Dans Francœur, selon laquelle les Québécois se distinguent non seulement du reste du Canada, mais aussi des autres pays. En effet, seulement 66% des répondants du Québec ont affirmé que l'infidélité n'était jamais correcte, alors que les pourcentages des autres provinces du Canada variaient entre 79 et 91%. Nouveau sous-chapitre qui s'intitule maintenant « Le pronostic du risque d'infidélité ». Qui donc franchit la barrière du désir extraconjugal et ose passer à l'acte? Point d'interrogation. Je réponds d'emblée à cette question par une série d'affirmations que j'expliciterai dans les prochains chapitres. Ces 10 critères que je propose peuvent même servir pour évaluer le risque d'infidélité chez une personne. Plus la liste des critères s'allonge pour un individu donné, plus la probabilité qu'il devienne infidèle est forte. Premièrement, l'insatisfaction conjugale. Je vais les nommer puis je vais revenir en les explicitant. Alors donc, l'insatisfaction conjugale, ensuite le mauvais fonctionnement conjugal, l'insatisfaction sexuelle, des vies conjugales séparées, le manque d'engagement conjugal, l'absence de promesses de fidélité, des valeurs libertines, le contexte social et finalement les troubles de la personnalité. Alors, je reviens pour définir un petit peu plus. Alors, le premier critère, l'insatisfaction conjugale. D'après moi, plus l'insatisfaction subjective croît dans l'esprit d'une personne, plus l'infidélité est probable. Deuxième, le mauvais fonctionnement conjugal. D'après moi, plus un couple fonctionne mal, plus l'infidélité est probable. Autre critère, l'insatisfaction sexuelle. D'après moi, surtout pour les hommes, plus l'insatisfaction sexuelle croît, principalement une fréquence sexuelle trop basse, mais aussi des relations sexuelles dysfonctionnelles chez l'un ou l'autre partenaire, plus l'infidélité est probable. Désolé. Autre critère, des vies conjugales séparées. Peu importe les raisons, moins les conjoints sont proches physiquement et plus ils mènent des vies secrètes, plus l'infidélité est probable. Autre critère, le manque d'engagement conjugal. Moins l'engagement est ferme, plus l'infidélité est probable. Autre critère, l'absence de promesses de fidélité. Moins la fidélité a été clairement discutée et promise, moins elle est respectée. Autre critère, des valeurs libertines. Plus un conjoint prône des valeurs libérales sur la sexualité hors mariage, plus l'infidélité est plus que probable. Autre critère, le contexte social. Plus le contexte social se prête aux relations extra-conjugales, plus elles sont susceptibles de se produire. Autre critère, les troubles de la personnalité. Je fais l'hypothèse qu'un pourcentage d'infidélité beaucoup plus élevé se trouve chez les personnes qui sont affligées d'un trouble de personnalité. Aussi, que ces personnes suscitent davantage d'infidélité chez leur conjoint ou leur conjointe. Et finalement, un dernier critère que j'avais oublié de mentionner tantôt, la dépendance de la sexualité. Un individu dépendant d'une hypersexualité débridée est automatiquement infidèle de par définition, peu importe son niveau d'engagement conjugal. Alors donc, non, ce n'est pas tout le monde qui le fait, bien qu'en général nous soyons attirés fortement par le sexe opposé, nous avons tendance à bien protéger notre lien conjugal par la fidélité. Et quand elle se produit, l'infidélité n'est pas due au hasard, même si nous sommes inconscients des variables, des véritables motivations qui nous ont menés là. Nous allons d'abord nous pencher sur les réactions émotives vécues par les protagonistes de l'infidélité. Une échappée belle, selon l'expression d'un auteur connu, reprise par un de mes clients qui voulait fuir la monotonie de son quotidien par des relations extra-conjugales, peut avoir des lendemains houleux et troublés pour toute une famille. Alors, chapitre 2 s'intitule « Une famille ébranlée ». Le désir extra-conjugal a beau appartenir au plus profond de l'intimité d'un individu, c'est quand même toute sa famille qui est impliquée et qu'il le veuille ou non, tout le monde s'en trouve affecté. Alors, premier sous-chapitre, intitulé « Une bien pénible soirée familiale ». Le texte suivant, tiré du roman « Autant laisser courir » de Liane Bédard, publié en 2003, illustre bien la détresse d'une famille au moment de la découverte d'une infidélité qui met en péril la vie familiale. Ce genre de situation constitue mon pain quotidien. On ne peut rester indifférent à cette souffrance et on a vite le désir d'être utile. Dans ce cas-ci, malgré leur souffrance, les membres de cette famille se révèlent toutefois des personnes sensibles et très respectueuses. Alors donc, je commence le texte, je cherche le bon terme, là. Je commence à lire à un moment donné dans le livre ce qui a du sens pour ce chapitre-ci. Alors que je m'affaire à la préparation du souper, Jocelyn s'approche de moi en me tendant une toute petite photographie. Un coup d'œil suffit pour me laisser réaliser que je suis dans de beaux draps. Je cherche une adresse dans ton portefeuille et je suis tombé là-dessus, dit-il froidement. Qui est-ce? Je cherche mes mots, je bredouille. C'est un bon ami à moi. Il doit être drôlement important pour que tu traînes sa photo avec toi, ajoute-t-il d'un air mal assuré. Je patine, je dérape, c'est que oui, on ne garde pas la photo d'un ami avec celle de ses enfants et de son mari dans son portefeuille, crache-t-il déterminé. Cette fois, à tirer cette intrigue au clair. Vas-tu bientôt me dire ce qui est arrivé, qui est ce gars-là? Je ne suis pas capable de cacher la vérité plus longtemps. Je me vois même, je ne veux même plus essayer. Plutôt que de m'enliser davantage dans le mensonge, je choisis de me taire. Plus fulminant qu'un cri, mon silence est un aveu. Ainsi, cet homme est ton amant et cette histoire, ça dure depuis combien de temps? Bafouille-t-il, choqué par l'irréparable outrage d'avoir été trompé. Je juge inutile de lui donner des détails. Je le connais depuis quelques semaines à peine et nous sommes vite devenus de très bons amis. Figé devant la cuisinière, le regard désespérément perdu dans le chaudron de soupe, je voudrais que le temps s'arrête là. C'est alors que Jocelyn me prend soudainement... me prend doucement par le poignet pour me tourner vers lui. Malgré la fermeté du ton qu'il a employé en m'interrogeant sur cette petite photo qu'il tient toujours entre ses doigts, pièce probante de mon infidélité, je me décèle, je ne décèle pas de colère dans son regard, la mine plutôt déconfite. Il m'entraîne vers le salon, s'assoit dans la chaise berçante, me prend sur ses genoux et commence à me bercer en silence. Ne sachant trop comment réagir à un geste aussi inattendu, je reste coite, assise en biais sur ses cuisses, le dos raide, et je le laisse faire, les enfants absorbés par la télévision, en attendant le souper, s'aperçoivent soudain que notre comportement est plutôt bizarre et lèvent sur nous des yeux interrogateurs. Je hasarde un œil du côté de Jocelyn. Non, c'est-à-dire mon regard tombe à la hauteur de son front, puis descend vers ses paupières baissées et sa poche, et sa bouche, voyons, et sa bouche, excusez, j'ai de la difficulté à lire, là, dont la lèvre inférieure semble en proie à un léger tremblement. L'expression de son visage trahit toute l'affliction qu'il tente de réprimer malgré le cruel revers qu'il essuie. Soudain, ne pouvant plus contenir le chagrin qui lui mitraille le cœur et l'esprit, il ouvre les vannes et commence à pleurer. Cette dure épreuve touche directement le centre de son univers, son point de repère, le noyau même de son existence. Tel un vieux navire de guerre qui reçoit une torpille dans le ventre, l'entraille profonde faite à sa cuirasse est fatale. Malgré tous les moyens déployés pour colmater la brèche, il semble à pic dans un abîme couleur d'encre. À l'évocation longtemps redoutée d'une rupture possible, à son sens imminent et sans recours, à présent que des gestes ineffaçables ont été posés, la plaie demeurée béante s'est mise à déverser son flot de lave brûlante, un déluge de larmes sans fin et de gémissements de bêtes blessées. Abasourdi par cette manifestation émotive aussi subite qu'imprévue, excessive même à mes yeux, je me sens d'autant plus impuissante à le consoler que seul un démenti de mes actes pourrait verser un baume sur sa plaie. De façon étonnante, même à voir la souffrance dans chacun de ses traits et entendre la douleur extirpée de ses entrailles, je n'arrive pas à éprouver de véritables chagrins et je demeure impassible, tout à fait muette. Les enfants cloués en rang sur le canapé, observant la scène sans mot dire, médusé. Je ne peux alors qu'espérer l'apaisement de cette triste démonstration. Alors que la peine qui l'habite et le tenaille fait son chemin et exprime enfin aussi l'effort qu'il le ressent, j'assiste en retrait à ce déchaînement comme si je n'étais pas concerné par mon malheur. Mon attitude rend compte de mon détachement de toute la distance si soigneusement entretenue entre nous. Je suis à des lieues de l'insatisfaction où il se trouve. Je la connais pourtant bien, cette peine, pour en avoir inspecté tous les méandres ces dernières années. À force de verser des torrents de larmes, la tête enfouie dans mon oreiller, j'ai fini par comprendre que le deuil de mon mariage était amorcé. Je crois que chaque larme versée emportait avec elle une part de mon rêve et de mon idéal amoureux. C'est ainsi que, goutte à goutte, un mélange cryogène s'est infiltré avec toutes les forces de notre union et a considérablement gelé toutes les voies d'accès qui unissaient nos cœurs. Quant à Jocelyn, son deuil commence. L'épouse soleil sur laquelle il avait tant misé s'évanouit derrière l'horizon et illumine et réchauffe déjà d'autres cieux. Bien sûr, je ne suis plus assise sur ses genoux et il s'est levé de sa chaise. J'essaie de le calmer un peu sans succès. Il se dirige alors vers l'escalier qui conduit au sous-sol et s'y engouffre, nous laissant stupéfaits, les enfants et moi. Isolé dans le noir, couché à même le sol, sa plainte sans fin traverse la maison de la cave au grenier. Je rassemble les enfants et nous trouvons refuge à l'étage, dans la chambre des filles. Malheureusement, même de là-haut, il est impossible d'échapper aux cris de révolte du condamné à mort et aux sanglots intarissables de son désespoir qui monte vers nous, nous rejoignant, nous étouffe. Tous assis sur le même petit lit, hésitant, les émotions en suspens, à l'écoute du moindre soubresaut qui accompagne les pleurs, les trois petits témoins innocents, pantois et troublés, devant cette situation inhabituelle, se mettent à faire écho à sa douleur. À voir mes petits anges aussi affligés, je ressens un vif brisement de cœur. Je les enserre dans mes bras en les berçant et nous pleurons ensemble, recroquevillés au centre du lit comme des naufragés au fond d'une épave balancée par la houle. Pendant près de 2 heures, la tempête fait rage sans relâche. Puis elle montre enfin des signes d'accalmie. La plainte se modifie, diminue d'intensité, entrecoupée de courts moments de silence auxquels nous sommes tous suspendus. Puis, soudain, on entend des pas lourds au bas de l'escalier. Marche après marche, Jocelyn monte péniblement vers nous. Sa respiration est difficile, saccadée. À contre-jour, dans l'encadrement de la porte, sa silhouette apparaît enfin. Malgré la pénombre, se distingue sans peine son visage contrit. Sans hésiter, il saisit les mains tendues vers lui comme autant de petites bouées et il se hisse à bord de notre vaisseau factice. Les larmes peu à peu tarissent et les visages ravagés se détendent. Réconfortés par la proximité des corps, bras et jambes entremêlés, dans un nœud familial que l'on voudrait inextricable, une sensation de chaleur et de bien-être général irradie bientôt de ce noyau pour remplacer peu à peu le malaise indicible ressenti plus tôt. C'est alors qu'une toute petite main s'empare de la mienne et la fait glisser dans une plus grande, repliée et moite. Je me laisse guider. La grande main accueille la mienne et la caresse en masse la paume avec son pouce et la serre tendrement. Avec soulagement, je lui rends l'appareil. Le calme est revenu, l'enchevêtrement de nos corps se défait lentement en cinq individus qui activent leurs membres ankylosés par de longues minutes d'immobilité. La nuit a coupé court à cette fin de journée dramatique et l'heure d'aller dormir a sonné pour tout le monde. Les enfants se mouchent et enfilent leur pyjama en silence. Je fais ensuite la tournée habituelle des chambres, lit par lit. Chaque petit visage aux yeux, au creux de l'oreiller, est une citation difficile et je prie que le sommeil vienne vite les engourdir. Chaque joue porte la trace d'un sillon de sel léché. Les nez sont rouges, sont rougis et les fronts fiévreux. Blottis dans leurs draps de flanelle, ils laissent la nuit emporter leur tourment. Je gagne mes couvertures épuisées. Malgré la fatigue, je n'arrive pas à m'endormir. Songeuse et quelque peu ébranlée après les événements particuliers des dernières heures, mes pensées bouillonnent sans jamais se fixer. Alors qu'il devait bien être 3 heures du matin, quand je me suis finalement assoupi, c'est avec agacement que je réalise qu'on me tire de mon précieux sommeil. Longtemps encore avant l'aube, Jocelyn s'est glissé près de moi et me caresse le cou, le dos, les bras. J'ai de la difficulté à soulever mes paupières pour tâcher de voir l'heure sur le réveil matin. Il n'est pas encore 5 heures. Après une nuit blanche à avoir passé en revue tous les pires scénarios concernant notre avenir, Jocelyn se retrouve au petit matin dans un état d'extrême insécurité et son cœur sinistré en appelle à mon réconfort. Je compatis à sa détresse en l'entourant de mes bras, mais je ne peux lui offrir davantage. Alors, fermez les guillemets, c'est la fin de cette citation de ce roman. Et voici un dernier paragraphe pour cet épisode. Je conclue ainsi. Il y a plusieurs sortes d'infidélité, on le verra plus loin. Dans ce cas-ci, il s'agit vraisemblablement de la sortie de secours, cette sorte de relation extra-conjugale qui aide l'infidèle à terminer son mariage sans aborder clairement les raisons qui l'ont amené à prendre cette décision. Voilà une situation familiale particulièrement déchirante parce qu'il y a peu d'espoir pour la survie de cette famille. Et l'agressivité risque de se développer et de persister indéfiniment entre ses conjoints une fois la relation terminée. Alors donc, ce qui termine cet épisode pour aujourd'hui. Alors donc, mes chers auditeurs, je vous salue en vous proposant de visiter mon site internet si vous voulez savoir davantage qui je suis et ce que sont mes services, www.dalpecote.com, et à la prochaine.